Philosophie de l'art, 2 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
À propos des attentes de l'univers, la peine, peut-on dire à Baudin? Oui, je vois ce que vous avez dit la dernière fois, que le Seigneur a fait un monde qui est un monde imparfait pour que l'homme puisse compléter. C'est pour ça, peut-on dire, à propos des attentes de l'univers, hein, vous voyez bien, l'univers attend d'être achevé. La pierre et la terre attendent la sculpture. On va vers ça, un tropère, hein, là-dessus. Vous voyez, bon, le son attend la musique. Le cri, la voix, attend le chant. Le vivant attend le théâtre. Le drame. Le théâtre, dans le sens. Le vivant a toujours, il y a toujours une lutte, hein, dans le vivant. Dans tout vivant, il y a une lutte. Alors, il y a le tragique. Et c'est le tragique qu'on met en pleine lumière. Hein. Le mouvement de la nature attend la danse. Le langage attend la poésie. Les grandes attentes. Réfléchir là-dessus. C'est bien, il faut réfléchir sur le fait que notre univers, mais notre univers lié à l'homme, hein, il faut comprendre. Hein. Ce n'est pas l'univers physique, c'est l'univers lié à l'homme. C'est l'univers dans sa relation vis-à-vis de l'homme, qui est en attente vis-à-vis de l'achèvement de cet univers par l'artiste. L'artiste achève l'œuvre artistique de Dieu. Il l'achève à sa manière, en y mettant une marque plus immédiate de l'homme. C'est au fond ça que fait le... Et on pourrait dire aussi, voyez, parce que alors ce serait une autre perspective au point de vue théologique, comment l'univers, il y a les gémissements de l'Esprit Saint. Alors découvrir les gémissements de l'Esprit Saint à travers l'univers, parce que l'univers gémit, hein, il y a les gémissements de l'Esprit Saint dans l'univers, et que l'art, surtout du croyant, l'art chrétien, alors est une attente de la glorification des corps. Alors il y a deux choses, vous voyez. C'est ça qui est très curieux. Parce que l'art dernier qui va tout clôturer, c'est la résurrection des corps. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Entre deux, il y a l'homme croyant et artiste dans sa liturgie. C'est-à-dire que tout art chrétien est une liturgie. Le Saint-Père n'a pas hésité de le dire pour Frangelico. Hein. C'est une liturgie. C'est une liturgie qui exprime plus ou moins une théologie en peinture, une théologie en lumière. C'est une liturgie. Je crois que tout art chrétien est une liturgie. Alors, elle est plus ou moins proche de la liturgie. Elle est une paraliturgie, si vous voulez, dans le sens où ça peut être une paraliturgie. Mais c'est une liturgie. Et toute liturgie est ordonnée à la résurrection des corps. Vous voyez ? Alors, c'est ça qu'il faudrait compléter. Il faudrait achever ça. Mais c'est très vrai qu'il y a une attente. Alors la pierre et la terre attendent la sculpture, c'est sûr. La matière de la sculpture, c'est la pierre et la terre. Le son attend la musique, le son, le bruit. Est-ce qu'il y a le bruit? Quand vous traversez une forêt, hein, il y a le bruit de la forêt. Et ça attend une musique, ça attend d'être pris, saisi par autre chose. Le grand vent d'hier au soir, hein, ceux qui aiment le grand vent, il y a une espèce de musique là, et si on est un peu poète, immédiatement, on entre dedans. C'est quelque chose de très 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 grand. Il y a un dynamisme extraordinaire au bord de la mer. Le dynamisme d'une mer qui est déchaînée. Alors ça attend quoi? Ça attend la musique? Ça attend le chant, ça attend la transformation de la chose. Et c'est très vrai. Il y a un lien entre ces choses-là. Et c'est beau de voir comment la nature est en attente de l'art et des différents arts. Et comment les différents arts sont en attente de la résurrection, de la glorification. Et il y a deux grandes attentes. Et c'est dans un grand mouvement, il faut voir les deux de cette manière-là, parce que c'est vrai que l'Esprit Saint, c'est l'artiste dernier, hein. C'est l'artiste dans l'ordre de l'art. Alors le cri, la voix attend le chant. Oui, la voix est sûrement quelque chose de plus immédiatement ordonné au chant. Le vivant attend le drame, le théâtre, la tension proprement dite, le vivant humain, vous voyez. Et alors, par le vivant humain, tous les autres vivants. Mais c'est le vivant humain qui attend le drame, qui est en attente et qui doit être saisi. Parce que toute vie implique la lutte. Toute vie implique la lutte. Toute vie biologique, toute vie passionnelle implique la lutte. Et conditionnée par la lutte. Hein. N'identifions pas vie et lutte, comme le font certains. N'est-ce pas? Il ne faut pas identifier les deux. Alors, le mouvement de la nature attend la danse. Vous voyez, ça, c'est le mouvement de la nature. C'est le mouvement de la nature assumé par l'homme. C'est le corps de l'homme qui attend la danse. Et c'est l'expression du corps de l'homme. Le corps de l'homme dans son mouvement. Dans son mouvement et dans son mouvement cosmique. Lié à tout le mouvement cosmique. Le langage attend la poésie. Alors nous en sommes là. Le langage attend la poésie. Mais bon, c'est juste de réfléchir de cette manière-là. D'essayer de comprendre comment la matière peut être source d'inspiration. Je crois que pour l'art artisanal, la matière est toujours source d'inspiration. Pour l'art proprement dit, c'est différent. Mais la matière est présente. C'est la différence entre l'artisan et le véritable poète, au fond. Il y a une espèce de sens de la matière qui appelle d'être achevé. Vous voyez, quand Aristote prend ces deux expressions qu'il ne faut jamais oublier, l'art imite la nature et l'art achève la nature. L'art imite la nature en comprenant bien, c'est-à-dire que l'art s'inscrit à partir de la nature. Ce n'est pas une imitation. Mais ça s'inscrit à partir de la nature. L'art présuppose la nature. Et l'art présuppose la nature comme la grâce, mais pas de la même façon. N'est-ce pas? Mais les deux présuppositions. L'art présuppose la nature, la grâce présuppose la nature. Ce serait intéressant du reste de voir la différence, de voir la manière différente dont l'art présuppose la nature et la grâce présuppose la nature. Il y a une attente. Il y a une puissance obédientielle, comme dira saint Thomas. Il y a une puissance obédientielle de la nature par rapport à l'art. La nature demande d'être achevée. Mais la nature, prenez l'homme. Hein, parce que tous les arts sont tournés vers l'homme. Et c'est dans l'homme que je vois le petit cosmos. Et le grand cosmos continue le petit cosmos. Et c'est à partir de l'homme qu'on doit le voir. Et qu'on doit comprendre comment il y a cet achèvement. Alors, voyez, la parole est déjà œuvre d'art. La parole est déjà une œuvre d'art. Alors on dira que c'est une œuvre conventionnelle, c'est une œuvre d'art. L'homme est source de la parole. d'une parole qui peut être affective. Je crois que la première parole, elle est liée à tout un aspect d'amour. La première parole est un langage beaucoup plus affectif. Chez l'enfant, c'est très net. Puis le langage devient un langage philosophique et scientifique. Et puis le langage est poétique. Alors, est-ce que le langage affectif premier est très symbolique? Et à ce point de vue-là, il est beaucoup plus proche du poète que le langage scientifique. Le développement de la science diminue le point de vue poétique. Ça, on ne peut pas nier. Et plus le langage devient scientifique, moins il est poétique. Et plus il redevient proche de sa source première, au point de vue affectif, plus il y a une fécondité poétique qui vient. Et donc, c'est intéressant de voir que dans le langage même, il y a un appel à la poésie. Et c'est vrai, ça, il y a un appel à la poésie dans le langage même. Le langage même, le langage humain réclame cela. Bon, nous avions essayé de comprendre les liens qui existent entre le point de vue du langage poétique et puis le point de vue de la musique et du chant. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, mais voyez la différence. Hein, c'est que du côté chant, c'est beaucoup plus la voix. Du côté poétique, c'est plus la signification qui est symbolique. C'est pas la voix. Le poète va se servir de la voix. Il a besoin d'exprimer, de le dire. Et donc la voix sera présente. Et c'est vrai que c'est tout à fait particulier d'entendre quelqu'un qui sait mettre en pleine lumière le langage. Pensez à notre cher Dominique. Hein, qui, on sait très bien ce que ça représente quand on peut mettre en pleine lumière un rythme profond qui est dans le langage, mais qui reste toujours lié à la signification. Je crois que la poésie reste toujours. La poésie est plus proche de l'intelligence que le chant, bien plus, et que la musique. La musique est beaucoup plus affective et la poésie est beaucoup plus intellectuelle. Il ne faut pas tomber dans le défaut d'une poésie intellectuelle à outrance et qui devient alors des jeux symboliques qui deviennent musique, une poésie fermée. La poésie doit être sensible. Elle ne doit pas être hermétique. Alors ça, c'est le symbolisme qui est poussé à l'extrême et devient intellectuel. Vous voyez, c'est toujours le danger. Il y a un peu la même chose pour la peinture. La peinture est intellectuelle. C'est un des arts les plus intellectuels, la peinture. Comme la poésie. Ce sont deux arts qui sont très intellectuels. Eh bien, par le fait même, on voit tout de suite le danger d'une peinture qui peut devenir trop intellectuelle comme une poésie qui devient trop intellectuelle, alors qu'il perd son caractère affectif et sensible. Et il est bien évident qu'on voit ça dans la peinture abstraite, par exemple. C'est l'aspect primat de l'intelligence qui l'emporte sur le point de vue sensible affectif. Je ne crois pas du tout que la peinture abstraite, soit le chef-d'œuvre de la peinture. Non, ce sont des gammes, ce sont des exercices. Je comprends très bien qu'un peintre fasse des gammes à sa manière. Et alors à ce moment-là, il fait de la peinture abstraite, c'est-à-dire l'harmonie des couleurs. Et l'harmonie des couleurs extrêmement organisée, extrêmement mise en relief. Ce sont des gammes, mais il n'arrivera jamais à la pensée d'un vrai musicien de faire un concert en donnant ses gammes. Et cependant, il y a des peintres qui font des expositions en donnant leur gamme. C'est très curieux, ça. Ils ne sentent plus ce qu'il y a de ridicule. Ils se prennent trop au sérieux. Il y a des expositions où on rigole du matin jusqu'au soir quand on voit ça. Il y a de quoi. Vraiment, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Si on est à plusieurs, si on est seul, on se tait. Mais si on est à plusieurs, il y a de quoi rire. Ce sont des gammes. Et on présente ça comme des chefs-d'œuvre. Mais il y a un sens artistique qui se perd par un point de vue intellectuel. On est dans une cérébralisation. C'est la cérébralisation, ça. Il y a une cérébralisation du côté de la peinture, une cérébralisation du côté de la poésie. Comme il y a une cérébralisation du côté philosophique. Alors ce n'est plus la philosophie, c'est une cérébralisation. La cérébralisation du côté philosophique, ça devient uniquement la logique. Parce que la logique est quand même une certaine cérébralisation, n'est-ce pas ? Bien, c'est très bon la logique quand elle est au service de la pensée, mais quand la logique est voulue pour elle-même, je ne sais pas si on ne devrait pas qualifier ça d'une cérébralisation. Une logique voulue par elle-même, voulue pour elle-même. Parce qu'il n'y a plus de signification humaine. Alors qu'est-ce que c'est que la cérébralisation ? C'est bien ça. Hein ? C'est une intelligence qui est uniquement formaliste, qui se formalise, alors qui aime le jeu d'une formalisation. Et qui n'a plus le contact avec le réel. Alors, vous retrouvez ça, il serait intéressant de voir les dégradations de l'art, vous voyez, qui se font du côté intellectuel ou du côté affectif. La musique trop affective, hein, romantique à l'excès, ben, c'est le point de vue affectif qui l'emporte. C'est sentimental. Alors, au bout d'un certain temps, c'est écœurant. Parce que le sentimental poussé à l'extrême devient écœurant. Vous voyez, comme l'intelligence poussée à l'extrême devient cérébrale. C'est les deux extrêmes. Ce n'est plus l'art. Parce que l'art exige toujours, hein, dans toute œuvre artistique, exige toujours une espèce d'unité entre l'intelligence, l'imagination, l'affectivité et le sensible. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans le point de vue sensible. Il n'y a pas d'œuvre d'art sans l'imagination, il n'y a pas d'œuvre d'art sans l'intelligence, il n'y a pas d'œuvre d'art sans l'affectivité. Et c'est en ce sens-là que l'œuvre d'art est particulièrement humaine. Je ne crois pas qu'il y ait un art angélique. Il y a un art du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut, parce qu'il peut se servir de tout cela. Mais au fond, il n'y a pas d'art, je crois, il n'y a pas d'œuvre d'art sans ces éléments et sans un équilibre différent de ces éléments. Et au fond, on verra très bien quand l'élément affectif l'emporte, quand l'élément intellectuel l'emporte, quand l'élément imaginaire l'emporte, et ainsi de suite. Et au fond, il y aura les diverses modalités de l'art. Et quand Faucillon parle des formes et de l'évolution des formes artistiques, au fond, c'est ça qu'il montre. Alors il prend au point de départ, puis l'épanouissement, puis le terme. On voit très très bien ces choses-là. Quand la forme est très liée à la matière, quand elle est encore dans l'éclosion de la matière, quand la forme peut s'épanouir pleinement elle-même, et quand la forme redégringole et n'a plus sa vitalité. Alors on retrouverait toujours. La matière maintient le sensible. Quand la matière est trop forte, il n'y a plus que du sensible. Mais quand il n'y a plus de matière, il n'y a plus de sensible. La matière maintient le sensible. L'imagination maintient la valeur symbolique. L'imagination liée à l'intelligence. Parce que l'imagination liée à l'affectivité supprime le symbole. Et alors fait quelque chose qui est trop lourd à porter, trop sentimental. L'aspect affectif maintient aussi la question de la qualité de l'éveil du cœur qui est nécessaire. Et l'intelligence est nécessaire pour que l'art maintienne son caractère classique. Quelque chose de classique dans l'intelligence, hein, toujours, à la différence du côté affectif. Donc c'est ça qui me semble important quand vous étudiez cette diversité des arts, c'est de voir que vous retrouvez tout le temps ces différents éléments. L'élément sensible, l'élément imaginatif, l'élément affectif, l'élément intellectuel. Il y a ces quatre éléments, et toujours dans une forme symbolique. L'art a comme langage le symbole. C'est le symbole qui est... Alors, le symbole va se retrouver dans toute sa perfection chez le poète. Je crois qu'à ce point de vue-là, on peut dire que l'art poétique, c'est l'art le plus symbolique et le plus inventif des symboles. Vous voyez, la sculpture est beaucoup moins symbolique. Elle l'est, mais elle l'est pas, elle l'est beaucoup moins. Tandis que la poésie est symbolique. Et quand elle n'est plus symbolique et qu'elle se cérébralise, alors elle perd sa splendeur. Elle perd son caractère affectif. Elle perd quelque chose qui fait que ça devient beaucoup trop intellectualisé, cérébralisé. Alors, c'est par là qu'on peut comprendre les liens entre la musique et la poésie. Je crois que la musique est beaucoup plus proche d'un élément affectif que la poésie. La poésie, l'élément intellectuel est plus poussé. Alors, n'oubliez jamais ce qu'Aristote dit, que la poésie, il dit de l'art, et on pourrait le dire de la poésie d'une façon très très forte, et on verrait chez Heidegger la chose, et chez Platon, que la poésie est plus proche de l'art que l'histoire. C'est une de ces phrases qu'Aristote dit dans la poésie, qui me semble extrêmement intéressante, surtout après Hegel. Oui, c'est intéressant après Hegel de dire ça. C'est-à-dire de le dire dans notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde historique. Nous avons un sens de l'histoire comme personne ne l'a eu, ça c'est vrai. C'est peut-être le caractère propre de notre culture. C'est vraiment un sens très très grand. Il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a un danger. Il y a un danger que la philosophie soit ensevelie par l'histoire. Ce qui peut arriver en Sorbonne, n'est-ce pas ? Que la poésie soit, que la philosophie soit ensevelie par l'histoire. L'histoire devient tellement importante que pratiquement il n'y a plus que cela. L'histoire de la pensée. Et au bout d'un certain temps, l'histoire de la pensée, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus que de l'histoire. Et la pensée est devenue matérielle. C'est devenu l'élément matériel. Alors que je crois qu'une véritable histoire de la pensée devrait être ordonnée à la pensée. C'est pour mieux penser que je regarde l'histoire de la pensée. Alors à ce moment-là, je me sers de l'histoire pour le point de vue de la pensée. Mais quand l'histoire de la pensée est telle qu'elle s'impose comme histoire, alors elle risque d'étouffer la pensée. Et alors on n'a plus qu'une série de systèmes, les uns accrochés aux autres, plus ou moins bien, et qui sont mêlés les uns avec les autres. Et on ne voit plus que la dimension de l'histoire, c'est-à-dire une certaine dimension d'un développement. Alors, il faut bien comprendre cette affirmation d'Aristote que je crois très importante, l'art, et nous pouvons dire la poésie, est plus proche de la philosophie que l'histoire. Ça, je crois que c'est très important. Et vous comprenez pourquoi ? C'est que l'histoire reste dans le contingent. La poésie dépasse le contingent pour, par la connaissance symbolique, atteindre quelque chose d'universel. Donc, être plus proche de la nature des choses. D'une façon tout à fait différente que le philosophe, parce que le philosophe, lui, analyse, alors que le poète n'analyse pas. Et il se contente uniquement de donner, non pas de décrire, mais d'évoquer, par le point de vue du symbole, la réalité profonde. Et d'avoir un sens prophétique. Tout poète est un peu prophète. Il ressent les choses pour les évoquer. Et les évoquer par mode symbolique. Alors, je vous ai déjà parlé du symbole, il faudrait évidemment, quand on est dans l'art poétique et quand on est dans la poésie, il faudrait parler du symbole. Alors là, ce serait aussi très intéressant de bien comprendre ce langage du poète qui n'est pas le langage scientifique, qui n'est pas le langage utilitaire, qui n'est pas le langage affectif, qui est un langage symbolique. Parce que je crois qu'il faut toujours distinguer ces diverses formes de langage. Le langage affectif, c'est le langage de l'ami. Le langage utilitaire, le langage scientifique et le langage symbolique du poète. Alors, mais si la poésie entend reprendre son bien à la musique, de la musique avant toute chose, disait Verlaine, de la musique encore et toujours, Cour, hein, ça c'est Verlaine. La poésie n'est pas la musique et le chant du poète s'exprime dans une parole. Alors, c'est l'élément beaucoup plus intellectuel qui est dans la poésie que dans le chant. Et l'élément plus symbolique par le fait même. Le symbolisme est plus fort chez le poète que dans la poésie. Alors là, ce serait intéressant de voir comment la poésie est peut-être plus reliée au mythe et la poésie plus reliée au symbole. Quelle distinction peut-on faire entre le mythe et le symbole? Ricoeur a étudié ça longuement. Je crois que ce serait une étude qui serait très intéressante à reprendre dans une perspective plus réaliste que Ricoeur. Ça, ce sont des choses qui seraient très intéressantes. Il y a une matière étonnante de Ricoeur. Non. Quand Ricoeur étudie la question du symbole et du mythe, il faut le savoir. Ça. Ce sont des études très intéressantes à faire aujourd'hui. Hein. Ce sont des études qui sont importantes à faire. Alors, Ricoeur dit ceci, et ça c'est vrai, je crois, que tout mythe implique un symbole et tout symbole n'implique pas un mythe. Alors, qu'ajoute le mythe au symbole? Ricoeur dit que le mythe ajoute au symbole la notion d'histoire, la naissance d'un devenir. Alors, on parle à ce moment-là, vous voyez, du mythe du péché originel. C'est vrai que pour, si vous voulez, pour le point de vue de humain, sans parler du point de vue proprement chrétien, sans parler de la foi, on peut dire que toutes les traditions religieuses impliquent le mythe de la faute. Toujours ça. Et vu de cette manière, j'ai tout à fait le droit de parler du mythe de la faute. Pour expliquer ce que représente l'état actuel dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un état tel de misère, d'injustice, que on veut expliquer cette misère actuelle par le mythe de la faute. Mais explication philosophique ou religieuse de l'état dans lequel on se trouve actuellement. Alors on parle du mythe de la faute. Au point de vue chrétien, moi je parlerai du symbolisme de la faute et plus du mythe. Ça, c'est des petites nuances que je crois important à faire. Parce que si l'Écriture me parle de la faute d'Ève, en tant que chrétien, je n'aime pas dire que c'est un mythe. Tandis qu'en tant que chrétien, je dis, en tant que croyant, je dis, c'est un langage symbolique. C'est bien évident qu'il n'y a pas eu le serpent. Le serpent s'est mis à se dresser sur sa tête et puis à interroger Ève. Je comprends qu'elle était complètement étonnée si le serpent s'est mis, surtout que c'est un serpent à sonnette. Hein. Alors c'était d'autant plus dangereux, n'est-ce pas? Alors on voit très bien qu'elle a eu très peur. Alors vous voyez, c'est un langage symbolique, c'est évident. C'est un langage symbolique. Le symbolisme du serpent. Et le symbolisme du serpent hante certains esprits. C'est bien évident que le symbolisme du serpent fait partie de ces grands symbolismes que nous portons tous, plus ou moins. Je connais certaines personnes qu'on ne peut absolument pas parler devant elles du serpent. Immédiatement, ça les met en état de crise. C'est quelque chose, c'est comme si on pressait sur le bouton d'une sonnette, immédiatement. Mais c'est extraordinaire. Et on voit certaines sculptures, le livre de la petite fille, là, de, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était la sœur de Claudel, tu vois, qui a sculpté. Et alors, quand on voit les sculptures de la fin de sa vie, c'est affolant. Elle est hantée du serpent. C'est absolument. Et alors, on voit cette emprise de certains symbolismes qui sont plus ou moins profondément enracinés en nous, et alors qui donnent des mythes. Quelle différence y a-t-il entre un mythe et un symbole? Je crois que ça, c'est une des questions qu'on doit se poser, vous voyez. Il y a certaines questions qu'on doit se poser. On voit la position de Ricoeur, est-ce que la position de Ricoeur est-elle juste? Dans Saint Thomas, vous ne verrez jamais de solution là-dessus. Jamais. Même dans saint Thomas, le point de vue du symbole, hein, c'est très difficile de savoir. Signe et symbole chez saint Thomas, est-ce que c'est la même chose? Alors, est-ce que nous devons distinguer signe, symbole et mythe? Vous voyez? Est-ce qu'on peut distinguer les trois? Et c'est à l'égard de la poésie que je traite ça. Hein, parce que c'est intéressant dans la poésie. C'est à propos de la poésie qu'on doit traiter ces choses-là. C'est pour ça que je le traite à propos de la connaissance poétique. Qui dit connaissance poétique dit connaissance symbolique. Je ne dis pas qui dit connaissance poétique dit connaissance mythique. Non. Il peut y avoir une poésie mythique, mais toute poésie n'est pas mythique. Donc l'essence de la poésie, ce n'est pas d'être mythique, mais c'est d'être symbolique. Ça, c'est le propre de la poésie. Une poésie qui ne serait pas symbolique n'est pas une poésie. Ça, je crois que c'est absolument impossible. Elle est nécessairement symbolique pour évoquer, pour dire certaines choses qui ne sont pas dites directement. Oui. Le symbole a une certaine parenté avec la connaissance analogique. La connaissance analogique, c'est une connaissance qui n'est jamais directe. Et la connaissance symbolique est une connaissance qui n'est jamais directe. Vous évoquez. Tandis qu'il y a une connaissance directe qui est la connaissance scientifique, la connaissance logique. Elle veut dire les choses directement. Tandis que la connaissance symbolique, non. Je me souviens, c'était une petite expérience d'un Japonais qui était dans une situation très difficile au point de vue politique. Et alors, il y avait quelqu'un qui venait de l'ambassade le voir. Je l'ai vu après. Alors, il m'a dit, nous avons eu une conversation purement symbolique. C'est-à-dire, on n'a jamais traité la question. Chaque fois, ça rebondissait sur un point de vue symbolique. Il faut être japonais pour voir personne, tu vois. C'était extraordinaire, c'était de dire. Et c'était la règle du jeu. C'est-à-dire qu'on ne traitait pas la question. Et on ne voulait pas la traiter. On voit très bien ce que ça veut dire. C'est assez curieux, parce que nous avons perdu un peu ça. La personne dirait, au fait, hein, qu'est-ce que vous voulez dire là? Et puis au bout d'un certain temps, on serait acculé. Alors, on a un langage symbolique qui est le propre du poète. Je crois que le poète, en chacun d'entre nous, il y a un poète qui dort. Quelquefois, il dort tellement qu'il est mort. Hein. Il y a longtemps qu'il dort, alors il est un peu mort. Hein. C'est dommage. Parce que je crois que quand on lit l'écriture, on doit toujours se réveiller au point de vue poétique. Quand on lit les psaumes, on doit toujours se réveiller au point de vue poétique. On doit toujours. Et si on ne comprend plus du tout ce que c'est que le langage poétique, c'est triste. Il y a une dimension qui disparaît. Parce qu'on a besoin de comprendre le langage poétique. Mais c'est vrai que le monde scientifique d'aujourd'hui, le monde logique d'aujourd'hui, risque de tuer cette dimension poétique. Alors, cette dimension poétique, elle est symbolique. Qu'est-ce que c'est que le symbole? Je vous ai dit tout à l'heure, le signe. Le signe, on sait très bien ce que c'est, hein, au point de vue philosophique. Donc, mettez signe, symbolome, et puis le mythe. Le signe. Un langage scientifique peut employer le signe. Un langage philosophique emploie le signe. Comme on emploie l'instrument. Il y a une analogie entre signe et instrument. Pourquoi? Parce que le signe projette toujours vers le signifié. On ne s'arrête jamais au signe. On va toujours au signifié. C'est le propre du signe. Le langage du signe, c'est justement qu'il projette vers autre chose. Quand vous avez dans votre poche, vous ne l'avez pas dans votre poche, mais un billet de 100 francs, est-ce que ce billet de 100 francs, c'est un signe ou un symbole? La monnaie. Ça ne vaut rien du tout, billet de 100 francs. C'est vrai, un bout de papier. Un bout de papier particulier, il y a un bout de papier qui ne sert à rien du tout. Quoi. Puis il est usé, il est crasseux. Et on dit, ça vaut 100 francs. Ah, c'est extraordinaire. C'est un signe conventionnel, très conventionnel. Parce que si on fait banqueroute, il sera dévalué du jour au lendemain. Un signe conventionnel qui exprime, et alors il sera pas changé. Il sera aussi crasseux, et il sera exactement le même. Et puis du jour au lendemain, il perd toute sa valeur. C'est invraisemblable. Et personne ne dit rien. Et là, un signe conventionnel qui exprime autre chose, qui exprime une valeur exprimée. Alors, c'est ou par rapport au-delà, ou par rapport à l'homme. Alors, c'est ça vers quelque chose d'autre. Un signe qui exprime quelque chose. Vous n'allez jamais dire que votre billet de 100 francs, c'est un mythe. Et vous ne direz pas que c'est un symbole. Non. C'est un signe. Terriblement utilitaire. Terriblement utilitaire, ça c'est évident. Mais c'est un signe d'une réalité signifiée. Vous prenez autre chose, parce qu'il y a des signes conventionnels, c'est en évidemment cela qu'on voit le mieux. Est-ce que le rouge et le vert qui sont sur les routes, est-ce que ce sont des symboles? C'est un signe, un pur signe. Arrêtez-vous. On ne peut pas dire autre chose que ça. C'est un signe qui fait immédiatement comprendre que vous arrêtez ou bien on peut passer. C'est la même chose hein, sur les routes, l'endroit où les gens doivent passer ou pas passer. Ce sont des signes. Tout le code de la route sont des signes. Ce sont des signes qui expriment quelque chose d'autre. Ce ne sont pas des symboles. Ce sont des signes. Des signes conventionnels. Il faut connaître, qu'il faut savoir. Il y a des signes naturels. Le signe naturel, c'est le fameux signe naturel bien connu, n'est-ce pas? C'est que vous pouvez dire la fumée indique du feu. Vous voyez une cheminée avec un peu de fumée, il y a un feu sur vous. On va voir ça. Donc il y a un feu. Ça, c'est un signe naturel. Vous n'allez pas dire que la fumée est un symbole. Mais la fumée peut devenir un symbole. Un signe naturel peut devenir un symbole. Ça peut. La nuée. La nuit dont on parle l'écriture, ah, c'était un symbole, c'est pas un signe. La nuée qui enveloppe la montagne, c'est peut-être une fumée, mais c'est un symbole. Ce n'est plus un signe. Vous n'allez pas dire que c'est un signe, quoi. Non, c'est un symbole. Alors, quelle différence mettez-vous? Et c'est ça qui est intéressant à voir au point de vue profond. Quelle différence mettons-nous entre le signe dont on se sert tout le temps? Notre langage, notre parole, est-il un signe ou un symbole? Aristote dit symbole. Il ne dit pas symbole. Il dit symbole. Saint Jean dit que les miracles sont des signes. Il ne dit pas symbole. Il dit symbole. Ce sont des signes. Alors moi, j'ai dit que c'est des symboles. Les noces de Cana, c'est un signe. Est-ce que c'est pas un symbole? Mais comme c'est difficile à préciser, c'est pas comme du tout. Alors, quelle différence y a-t-il entre le signe et le symbole? Je crois que le symbole, c'est ce qu'on dit habituellement. Hein. On dit habituellement le drapeau est le symbole de la patrie. Non, très bien, le symbole de la patrie. On ne dira pas que c'est le signe, on dira que c'est le symbole de la patrie. Pourquoi? Parce que le symbole a une réalité à laquelle on s'arrête. On s'arrête au symbole. On ne s'arrête pas au signe. Et je crois que c'est ça la très grande différence entre les deux. Le signe, on passe. C'est pour ça que la parole, le langage, peut-être les deux. Quand le langage est suffisamment lourd, affectivement, vous arrêtez à la parole. Et quand le langage est purement utilitaire, une carotte, vous n'arrêtez pas du tout au langage. Vous regardez tout de suite la carrosse. Quand le langage est utilitaire, il devient un signe. C'est curieux, dans le langage, il y a les deux. Il y a une capacité de faire un langage qui soit symbolique. Alors, c'est le poète. Il redonne au langage toute sa valeur symbolique. Je crois que ça, c'est le propre du poète. Il redonne au langage toute sa valeur qui était peut-être tout à fait primitive. Parce que le langage est d'abord né d'une façon très affective. Un langage affectif et symbolique. Un langage utilitaire et purement utilitaire, il devient uniquement un signe. Je ne m'y arrête pas, je ne fais aucune attention. Je regarde la réalité qui est signifiée. Exactement comme le morceau de papier qui est la monnaie, vous ne vous arrêtez pas. Vous allez directement au signifié, ça vous en prend. C'est ça que c'est intéressant. Donc c'est une possibilité d'échange. Alors voyez que dans le langage, il y a les deux. Un langage utilitaire devient un signe. Un langage qui retrouve sa source plus affective devient symbolique. Donc qu'est-ce que c'est que le symbole, la différence du signe? Le signe est tout entier tourné vers un autre, vers le signifié. Il est là uniquement comme médiateur. Le signe est un pur médiateur. On ne s'arrête pas à lui. Il est là pour être en référence. C'est la flèche. Tout de suite. Je suis tout entier tourné vers la signifiée. Et c'est vrai, regardez. Hein, le signe bleu, rouge et vert. Vous êtes tout entier tourné vers le signifié. Le signifié, vous ne passez pas. Le signifié, vous passez. C'est ça qui vous intéresse. L'autre qui dirait, ah, comme il est, aujourd'hui, ce vert est très extraordinaire. Il y a du soleil dedans. Et pendant ce temps-là, vous ne passez pas. Vous vous arrêtez. Donc, à ce moment-là, ça ne joue pas le rôle de signe. Le signe est tout entier tourné vers. Il est purement relatif. Je crois que c'est ça le problème du signe. Il est purement relatif. Et c'est pour ça que les scolastiques appelleront le concept un signe formel. C'est beau, c'est Jean de Saint-Thomas qui dit ça. Alors on a beaucoup discuté cette question-là, c'est parce qu'on n'a pas compris justement ce que c'était que le signe. Le signe, c'est purement un coup. On ne s'y arrête pas, purement relatif. Et le concept, on ne s'y arrête pas. À travers le concept, j'atteins la réalité. Donc c'est un signe formel. Vous avez signe naturel, signe formel, signe conventionnel. Très curieux. On peut en trouver d'autres. Hein. Au moins, j'ai ces trois. Alors, le langage, c'est un signe conventionnel. Ça, c'est sûr. C'est un signe conventionnel, c'est pour ça qu'il est différent selon les pays. C'est pas un signe naturel. Tandis que vous pouvez avoir des gestes qui sont des signes naturels. Dans n'importe quel pays, on comprendra que tel geste, un peu impératif, bon, c'est un signe de commandement. Ça, on comprendra tout de suite. Surtout s'il y a un instrument ou une voix. Vous prenez l'épée, puis vous y allez, alors vous foncez. On comprendra le signe, hein, pas besoin de le traduire. C'est immédiatement, il sera compris. Parce que c'est un signe naturel. Tandis que la parole, c'est un signe conventionnel. Donc il faudra l'interprétation. Il faudra nécessairement la traduire. Un signe naturel, on ne traduit pas. Il suffit d'être intelligent, on comprend. Donc le signe, référence. Le symbole, on s'y arrête. Quand le langage devient symbolique, on s'arrête au langage. Et le langage porte en lui-même une certaine vertu. Donc le propre du symbole, c'est d'être un quoi, hein, selon l'expression scolastique, un quoi. On s'y arrête. Il a une certaine réalité. Mais il a une réalité qui en même temps se réfère à autre chose. Ça, le symbole. Il y a toujours dans le symbole un signe. Le signe peut être à l'état pur, le symbole implique toujours un signe. Le mythe va impliquer un symbole et donc un signe aussi. C'est ça qui est curieux. Donc le symbole va impliquer une référence à autre chose, une réalité qu'on veut évoquer. Souvent une réalité abstraite. C'est à l'égard de l'abstrait qu'on emploie le symbole. On n'emploie pas un signe à l'égard de l'abstrait. regarde une réalité concrète, ainsi, ça signifie tout de suite. Tandis que vis-à-vis de quelque chose d'abstrait, on le rend présent par une valeur symbolique. On rend présent l'abstrait. Eh bien, la poésie, dans ce qu'elle a de plus profond, c'est justement de se servir du langage en lui redonnant sa valeur symbolique, donc sa valeur affective, sa valeur sensible, puisque c'est du langage, mais sa valeur symbolique pour évoquer autre chose, un sentiment profond de l'homme. Toute poésie évoque l'amour. Toujours. C'est Du Bellay qui dit ça admirablement, hein, dans la première poésie française. Il dit ça d'une façon extraordinaire, en montrant que la poésie évoque toujours l'amour. Alors, l'amour passionnel, c'est évident, ce n'est pas l'amour volontaire, l'amour passionnel, et par le fait même, les 11 formes d'amour passionnel, puisqu'il y a 11 passions, donc il y a 11 formes d'amour. Eh bien, je crois qu'on pourrait retrouver dans le langage poétique le symbole qui exprime les 11 formes d'amour. Et ce serait intéressant alors à comprendre ça. Vous êtes béni entre tous.